Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire,
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama. Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama. Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de films qui sont sur les écrans, c'est aussi le moyen de jouer à des blind tests, c'est aussi une émission qui vous permet d'entendre des réalisateurs, des acteurs, et aujourd'hui on va faire coup double avec un film que tu as vu, Sophia.
Oui, j'ai vu Die My Love de Lynn Ramsey.
Oui, qui était à Cannes, donc on va pouvoir l'entendre parce qu'elle était à la conférence de presse. Et puis, on va jouer un blind test avec la filmographie de Jennifer Lawrence qui joue dans ce film. Et toi, Guillaume, tu as vu un film?
Oui, Sorda de Eva Libertad.
Quant à moi, je vous parlerai d'un autre film qui était à Cannes, mais qui n'a pas eu l'honneur de sortir sur les écrans. C'est le film d'Ethan Coen, Honey et Don't. Mais nous commençons avec une femme sourde qui tente de trouver sa place entre identité, relation et regard des autres. C'est Sorda dans Cinérama.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Angela est sourde, Hector est entendant. Ils forment un couple épanoui malgré leurs différences. Alors autour d'Angela gravite tout un tissu social, son compagnon donc, ses parents, ses collègues de l'atelier de poterie qui entendent tous, ainsi qu'un cercle d'amis dont la plupart partagent sa surdité. Alors ensemble, ils ont bâti un cocon chaleureux en Catalogne où tout semble sourire à leur bonheur. Celui-ci prend une dimension nouvelle lorsqu'Angela tombe enceinte. Ce qui devrait être l'un des plus beaux moments de leur vie devient pourtant une source d'angoisse. Et si son enfant naissait sourd? Alors à la naissance de ce qui est une petite, les inquiétudes persistent. Angela doute d'elle-même. Comment tisser un lien profond avec sa fille quand son handicap lui donne l'impression de creuser une distance entre elles? Comment apprendre à devenir une mère dans un monde où la surdité demeure un véritable frein? Alors peu à peu, fragilisée, Angela s'isole, prisonnière d'un engrenage qui la pousse à s'exclure du monde des entendants. Plus troublant encore, elle cherche à entraîner sa fille dans ce retrait alors que celle-ci n'aspire qu'à vivre le plus normalement possible. Sorda prolonge le court-métrage du même nom signé par la réalisatrice Eva Libertad, remarquée dans plus de 70 festivals et couronnée d'une trentaine de récompenses. Alors le récit puise dans l'expérience intime de la sœur de la cinéaste, elle-même sourde et comédienne, qui incarne ici une femme rongée par l'angoisse de ne pas savoir si son enfant entendra. Alors d'abord ancré dans un naturalisme brut, le film recentre progressivement son regard sur le couple, le mari donc est entendant, et sur les difficultés de communication qui surgissent dans l'éducation de leur bébé. Alors pendant une large partie du long-métrage, la mise en scène adopte une forme quasi documentaire et nous plonge dans la perception sensorielle de son héroïne grâce à un travail sonore minutieux, parfois troublant et même oppressant. Alors sans jamais forcer l'émotion, le film fait ressentir le poids concret de cette surdité dans une société pensée avant tout pour les valides. Cette démarche sincère et louable dans sa volonté pédagogique atténue toutefois par moments la portée romanesque du film. D'autant plus que la souffrance d'Angela et son incompréhension face au monde des entendants la conduit à des comportements qui pourront sembler excessifs égocentré. Certains spectateurs risquent d'être heurtés par la manière dont elle en vient à négliger son enfant au nom de sa liberté ou de son propre bien-être, au point de faire peser sur ce dernier ce qui semble parfois davantage une forme de chantage affectif qu'à une véritable réflexion sur la condition des sourds. Mais c'est là aussi que le film trouve cette force, c'est dans sa capacité à poser des questions complexes et inconfortables sur ce que la détresse peut pousser chacun à devenir.
La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye.
Alors pendant longtemps, la surdité au cinéma, ça a été surtout un ressort dramatique. C'est un film populaire comme La famille Bélier, qui peut l'illustrer le mieux, faisant de la différence un moteur de pathos au service d'un parcours pour les entendants, allant jusqu'à confier des rôles de personnages sourds à des acteurs comme Transo Damiens ou Karine Viard. À rebours, des œuvres plus récentes comme Sound of Metal ont renouvelé ce regard en faisant de la surdité un vrai langage de cinéma. cinéma où le son, le silence et la perception deviennent des outils de la mise en scène à part entière. C'est dans cette lignée que s'inscrit Sorda. Son actrice principale, Myriam Garlot, artiste sourde issue de la photographie et des arts visuels, apporte à son personnage une vérité nourrie autant par son expérience du handicap que par sa sensibilité artistique. Cette approche atteint son sommet dans le dernier acte. Après une dispute, le récit bascule durablement dans la perception auditive d'Angela. Le son se brouille, se comprime jusqu'à devenir extrêmement agressif. Alors, en choisissant cette immersion, la réalisatrice elle impose le point de vue sensoriel de son héroïne, quitte à laisser une partie du public à distance malgré la douceur mélancolique de la conclusion. Car au fond, il faut le dire, Sorda n'est pas seulement un film sur l'handicap, c'est surtout le portrait d'un handicap vécu de l'intérieur à travers le regard d'une femme fragile, complexe et forcément parfois clivante. Alors libre ensuite à chacun d'y adhérer ou non, pour finir sur une touche plus légère, on se rappelle que Gustave Kervern et Benoît Delépine nous avaient eux aussi montré à leur manière que les handicapés étaient parfois très douteux dans leur hilarant premier film Altra.
Oui, bon souvenir. Ce film Sorda est en salle depuis le 29 avril. Une femme voit son équilibre vaciller face à ses troubles intimes et à la pression de son environnement. C'est un film qui réunit Robert Pattinson et Jennifer Lawrence. Nous parlons de Die My Love.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Il y a des cinéastes dont chaque film est un événement, pas parce qu'ils sortent un film tous les ans, plutôt l'inverse. Lynn Ramsey n'a réalisé que 5 longs métrages en 25 ans de carrière, et pourtant chacun s'est imposé comme une expérience à part entière. De Ratcatcher en 99, présenté à un certain regard à Cannes, à We Need to Talk About Kevin en 2011, en passant par A Beautiful Day en 2017, qui avait valu à Joaquin Phoenix un prix d'interprétation à Cannes, et à Ramsey elle-même un prix du scénario. 8 ans se sont donc écoulés depuis ce dernier film, 8 ans de faux départs, de projets avortés et puis Die My Love en compétition officielle à Cannes 2025, produit par Martin Scorsese. Pour l'incarner, Ramsey a réuni Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, et pour les auditoristes qui s'imaginent une potentielle fanfiction avec Katniss et Edward dans le Montana, on en est bien loin. Les deux actrices ont chacun et chacune opéré une mue radicale depuis leur rôle respectif dans The Hunger Games pour Lawrence et Twilight pour Pattinson. Et c'est précisément ce qui rend leur présence ici très juste. Le film est adapté du roman de l'écrivaine argentine Ariana Harvitz, publié en 2012, traduit dans une vingtaine de langues. Un texte tranchant, obsédé par les corps, avec une voix qui évoque quelque part un peu Sylvia Plath. Le scénario a été coécrit avec Enda Walsh, Alicia Birch et Ramsey, qui confie avec un phlegme très glaswegien, from Glasgow, you know. C'est un film sur la santé mentale et l'effondrement d'un mariage, mais c'est vraiment très drôle, du moins je crois, mais je suis écossaise, j'ai un sens de l'humour très noir.
Is that New York?
They put it.
No, it's ours.
I think it's gonna be pretty sick.
Grace, interprétée par Jennifer Lawrence, et Jackson, joué par Robert Pattinson, ont tout quitté, New York et son agitation, car Jackson a hérité d'une maison isolée dans le Montana, une bâtisse délabrée qui appartenait à un oncle mort par suicide. Bon, pas franchement de meilleur augure. Mais voilà, il s'y installe quand même. Elle rêve d'écrire un grand roman américain, lui de faire de la musique et d'enregistrer un album de rock. Le couple, marié, fait l'amour avec une énergie presque bestiale, c'est leur langage commun, leur ciment. Et puis, un bébé arrive. Ce qui suit, sans que le film le nomme jamais cliniquement, ressemble à une dépression postpartum. Mais Ramsey, elle-même, s'est insurgée contre ce diagnostic interprétatif brandi par la critique dès l'an dernier à Cannes. Et s'est d'ailleurs exclamée « Tout ce truc sur le postpartum, c'est des conneries, c'est pas ça le film. C'est l'histoire d'une relation, d'un amour, d'une sexualité qui s'effondre après un enfant et d'un blocage créatif. » Alors disons plutôt qu'on assiste alors à l'histoire d'un couple à travers le prisme d'une femme, Grace, qui est en train de se faire broyer par un modèle hétéronormatif, une famille nucléaire, un capitalisme qui accapare les pères et laisse les mères tenir debout, isolées dans la maternité.
Where are you now?
In a burger place outside of Napa.
What have you been up to?
Nothing.
Dès le générique, Ramsey annonce la couleur, une forêt prend feu à l'écran, les flammes montent aux cimes des arbres, rythmées par Zero, une composition originale de George Jvetsika. Le morceau est mixé, donc George Jvetsika, je précise, guitariste historique de Nick Cave. Le morceau est mixé donc à un niveau de décibels rare, l'effet est immédiat, dérangeant, inconfortable. Le titre apparaît sur les flammes, Die My Love, la promesse d'un feu ardent qui va tout consumer. La mise en scène installe ensuite son dispositif, le film est tourné en 35 mm au format presque carré, par le directeur de la photo Seamus McGarvey, qui était déjà à l'œuvre avec Ramsey sur We Need to Talk About Kevin en 2011. Et on dirait presque qu'il n'y a jamais de lumière dans cette maison du Montana. Ramsey et McGarvey ont choisi le Kodak Ektachrome, une pellicule inversible qui donne aux images une qualité spectrale, presque fantomatique, des couleurs qui semblent venir de l'intérieur de la psyché de Grace plutôt que d'une lumière extérieure. La caméra portée à l'épaule refuse toute rectitude dans le cadrage, les images ont cette sensation d'être légèrement de travers, de pas être tout à fait juste, comme un souvenir qu'on n'arrive plus tout à fait à mettre au point. On traverse en fait les hallucinations de Grace avec elle, sans filet. Jennifer Lawrence est hallucinante, une brutalité solaire, un engagement physique total. Et la bande-son dans le film elle-même est un objet fascinant qui finit sur « Love Will Tear Us Apart » de Joy Division au générique de fin. Une constellation de morceaux hein, sur l'amour et ses fractures tissées autour des compositions originales de Wjetsika. Si on pense à Mother d'Aronofsky, par son intensité dérangeante, son tourbillon émotionnel et d'ailleurs par la présence même de Jennifer Lawrence dans les deux cas, on pense aussi à Night Beach de Marielle Heller en 2024, hein, cette autre jeune mère artiste mise en pause par la maternité dont le quotidien bascule dans le surréalisme. Ici, on est quand même un peu plus visuellement submersif et psychologiquement subversif. C'est un film qui rend visible ce qu'on préfère collectivement taire, hein, et ben que la famille nucléaire, hétéro, telle qu'on nous la vend, peut être une expérience de survie et que le silence autour de ça coûte très cher.
C'est un film effectivement très fort, avec qui repose alors sur une mise en scène, comme tu le dis, effectivement plutôt claire, enfin voilà, et aussi des interprétations remarquables des deux acteurs, hein, Pattinson et puis qui lui s'en va petit à petit, et puis Jennifer Lawrence qui se bat.
Ouais. Il est beaucoup plus en retrait, mais voilà, comme son rôle dans le film, il lui permet pas beaucoup l'espace d'exister, donc il subit et puis il assiste vraiment passivement à la santé mentale de sa conjointe, de l'amour de sa vie qui périclite complètement.
Oui, on se demande à chaque fois, est-ce qu'elle est saine, pas saine ? Enfin voilà, c'est, effectivement, il y a tout un tas de questions qui nous submergent. Ce film, Die My Love, qui était en compétition à Cannes, nous donne l'occasion d'entendre alors non seulement la réalisatrice Lynn Ramsey, mais aussi l'actrice Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, puisqu'ils étaient en conférence de presse au Festival de Cannes.
Je me suis dit, c'est un roman vraiment très, très particulier.
Lynn Ramsey.
Qui a reçu plusieurs nominations. Et le sujet donnait beaucoup de marge à la créativité. Donc il y a de la passion, il y a du sexe, il y a un côté sauvage. Avec Jennifer, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose à l'écran. Et puis après, j'ai dit, je vais essayer. Allez, une expérience. Je me lance. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je me suis lancé. Et puis, on aurait dit une histoire d'amour au début. Et puis, on a travaillé là-dessus. Et puis, bon, cette histoire avec ces mariages délirants. Et il y a ce personnage féminin, très, très marrant. Donc, c'était une expérience personnelle quand même très, très particulière, voilà. Ça a été, comment dire, difficile, vraiment difficile de faire la part des choses entre ce que je ferais moi et entre ce qu'elle fait, elle, dans le film.
Jennifer Lawrence.
Ça me fendait le cœur. Quand j'ai lu le roman la première fois, c'était dévastateur, tellement puissant. Je venais d'avoir mon premier enfant, d'ailleurs. Donc, c'est un phénomène qui vous isole. Et donc, avec Lynn Ramsey, elle n'a pas une communauté, pour ainsi dire, autour d'elle. Et puis, cette anxiété, cette dépression extrême, c'est quelque chose qui vous isole où que vous soyez. On se sent un peu aliéné, un étranger, une étrangère. Je voulais travailler avec Lynn Ramsey depuis que j'avais vu Rat Catcher, l'attrapeur de rats, et puis je me suis dit, bon ben, on va essayer. Normalement, Je ne suis pas vraiment forcément attiré par ce genre de personnage.
Robert Pattinson.
Personnage obscur et... Jackson, c'est quelqu'un d'assez normal et puis c'est un peu universel. Quelles que soient les maladies mentales, c'est toujours, comment dire, délicat, difficile. Je vais répéter ce qui vient d'être dit, ce que Jennifer a dit. Cette isolation, on se sent aliéné et on a du mal à trouver son rôle dans la relation, rétrospectivement. C'est très difficile, ça. Trouver son rôle et s'accrocher. Et puis, il n'y a pas ce côté vernaculaire. Bon, il est musicien, un New Yorker. Il n'a pas l'air vraiment du mec qui passe son temps sur TikTok et des choses comme ça, mais il espère tout simplement que la relation reviendra à ce qu'elle était. Et bon, ça c'est purement formel. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi cet intrus a pénétré leur relation en quelque sorte. Et donc, c'est une peur que nous avons tous. C'est vrai, surtout quand on a des enfants.
C'était Jennifer Lawrence, Robert Pattinson et la réalisatrice Lynn Ramsey pour le film Die My Love, qui est en salle depuis le 29 avril. Et ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Jennifer Lawrence. Le principe, je le rappelle, 5 extraits et il faut évidemment trouver le titre. Voici le premier extrait, c'est facile.
Elle était pourtant simple, votre tâche.
J'ai jamais voulu faire tuer quelqu'un et il doit le savoir.
Mais de quoi tu parles? Qui doit le savoir?
Snow, il est venu me trouver. Il s'inquiète à propos des rébellions dans les districts et il dit que les gens ne croient pas assez à notre histoire.
Tu aurais dû me le dire avant que j'offre de l'argent à ces pauvres
Désolée,
gens.
Désolée, je savais pas quoi faire.
Mais à quoi est-ce que t'as pensé?
Mitch, s'il vous plaît, aidez-moi à supporter cette tournée. S'il vous plaît, aidez-nous à nous en sortir.
Une tournée? Mais réveille-toi, ma fille. Ça finira pas en rentrant chez vous, car jamais vous descendrez de ce train. Vous êtes des mentors à présent. Ça veut dire que chaque année, on vous sortira des oubliettes et on filmera tous les détails de votre histoire d'amour.
Alors, c'est trouvé évidemment.
C'est Hunger Games ?
Oui, L'Embrasement, film de 2013, c'est le deuxième volet, me semble-t-il. 3 millions d'entrées pour ce film. Après leur victoire, Katniss et Peeta deviennent les symboles d'une révolte naissante. Le pouvoir les renvoie dans une nouvelle édition des Hunger Games, encore plus dangereuse. Bien évidemment, voici le deuxième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Jennifer Lawrence.
Vous m'avez dit que David Selznick, qui était fils d'immigrés, avait épousé Jennifer Jones, une Américaine moyenne d'Oklahoma. Parce qu'en Amérique, toutes les races et toutes les classes peuvent se mélanger et profiter de toutes les opportunités qui se présentent. Et que ça, c'est ce que vous ressentez lorsque vous entrez chez les gens avec le téléachat.
Ce n'est pas trouvé dans les studios. Alors, elle parle à un comédien qu'on n'entend pas. Il parle juste après, c'est Bradley Cooper. Et il y a aussi Robert De Niro dans ce film.
American Bluff ?
Non.
Happiness Therapy ?
Non, alors non. C'est une mère célibataire invente un produit révolutionnaire et se lance dans les affaires, mais entre famille et trahison, son ascension devient un combat. C'est Joy, film de 2015. 510 000 entrées en France pour ce film. Nouvel extrait de ce blind test avec un film qui a beaucoup moins marché.
Vous êtes mariée ?
Je suis célibataire ces derniers temps. Quelle chance d'ailleurs, comme ça je m'éclate à fond, tu vois, je peux être spontanée.
Célibataire ? Des enfants ?
Non, quelle horreur, non, trop jeune. Je fais la fête, je rencontre plein de monde, j'adore ça.
Sans enfants ? Pourquoi vous voulez adopter un chien ?
Parce que j'arrive pas à en avoir.
Et que ferez-vous du chien en cas de déménagement ?
Je vais pas déménager.
Si ça vous arrivait ?
Je vis ici depuis que je suis née, je partirai jamais.
Oh, désolé, je voulais pas être intrusif.
Oh, s'il te plaît, sois super intrusif.
Alors, ce n'est toujours pas trouvé dans les studios. Il a pourtant été chroniqué dans cette émission. C'est un film de 2023. On voit qu'elle est là dans le registre de la comédie. Une trentenaire accepte de séduire un adolescent timide contre rémunération, mais la mission dérape.
C'est le candidat, quelque chose comme ça, non ?
Le challenge.
Le challenge.
Oui, voilà.
Okay, c'est pas marquant.
Et non, 117 000 entrées en France seulement pour ce film. Allez, lui, il a fait 1 million d'entrées.
Hé !
Mais merde, à la fin ! Je suis marié !
Moi aussi !
Raconte pas de conneries, ton mari est mort, alors arrête !
Et toi, elle est où, ta femme ?
T'es une malade !
Hé ! C'est pas moi qui viens de sortir de l'HP de Baltimore !
Mais c'est pas moi, la grosse salope ! Excuse-moi. Excuse-moi.
J'étais une grosse salope, mais je le suis plus. J'aurai toujours au fond de moi ce côté débauché et trash, mais j'adore ça. Comme tous les autres aspects de ma personnalité, tu peux dire la même chose de toi, enfoiré. Jamais ça t'arrive. de pardonner.
C'est trouvé cette fois-ci.
Alors, avec l'accord de ma collègue, c'est bien Happiness Therapy.
Oui, film de 2012, encore une fois avec Bradley Cooper, cette fois-ci qu'on entend. Deux êtres fragiles tentent de se reconstruire après leur échec personnel. Leur relation imprévisible devient une thérapie inattendue. C'est un Oscar pour Jennifer Lawrence et 1 million d'entrées en France pour ce film. Voici le dernier extrait de ce blind test.
Vous l'avez plus vu depuis quand ?
2 semaines.
Il a filé avec qui ? C'est qui les amis avec qui il traîne ?
J'en sais rien, il me parle jamais de ce genre de choses.
Vous savez, je peux entrer dans cette maison et fouiller partout et ce sera parfaitement légal.
Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est m'emmerder et perdre votre putain de temps. Jessup Dolly est mort. Alors ou son corps est en train de pourrir sous le tas de fumier d'une porcherie minable, ou bien il repose tout simplement à l'air libre. Mais où qu'il soit, il est mort.
Et comment vous le savez ?
Vous avez entendu parler des Dolly, n'est-ce pas, monsieur ?
Ouais, j'en ai entendu parler. Je me suis même chargé de la caution de certains d'entre eux.
Eh bien, je suis une Dolly. Une Dolly pure et dure. Et c'est pour ça que je sais qu'il est mort.
Alors, c'est le grand silence dans le studio, ça n'a pas été trouvé. Peut-être que vous, chers auditeurs, vous avez quelques pistes. Pour ce film de 2010, qui a fait très peu d'entrées en France quand même, une adolescente part à la recherche de son père disparu pour sauver sa famille dans un milieu hostile. Elle affronte seule la violence et le silence, c'est Winter's Bone. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré à Jennifer Lawrence, puisque nous parlions du film Die My Love, où elle est en tout point exceptionnelle.
Bon, remarque, il y a vraiment une grosse différence de fréquentation en salle. D'un côté, il y a Hunger Games qui fait des millions d'entrées, puis là, il y a tout un panel de films qui sont quasiment sacrifiés chez nous.
Oui, mais c'est pas nouveau, ce ne sont pas du tout les mêmes films entre un film dramatique qui se passe essentiellement...
Il y a quand même un très grand écart.
Oui, effectivement. Allez, on poursuit cette émission avec une affaire trouble qui entraîne une enquête où les situations dérapent entre humour noir et tension. Nous parlons du dernier film d'Ethan Coen, Honey Don't.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Dis, qu'est-ce que tu fais sur les lieux d'un accident de voiture ?
Et toi, alors ?
Comment ça, moi ?
Un enquêteur de la crime sur un accident de voiture. Pourquoi ?
Bah, je te le dis si tu réponds à ma question.
Dis toujours.
Eh ben, t'es célibataire. Pourquoi tu refuses qu'on se voit ?
Bah, on se voit, là, non ? C'est pas une cliente. Et Marty ? J'aime les femmes.
C'est ce que tu dis à chaque fois.
La VOD, tel est le réseau de distribution qu'a emprunté le dernier film d'Ethan Coen, Honey Don't, un long métrage qui a quand même fait la clôture du Festival de Cannes en 2025. En séance de minuit où nous étions présents, Sophia, l'ambiance était plutôt bonne dans la salle avec l'équipe du film qui était présente pour voir ce film, le deuxième d'une trilogie de films lesbiens de série B. En avril 2024 était sorti le premier volet, Drive Away Dolls, déjà avec Margaret Qualley qui a réuni 67 000 spectateurs en France. Est-ce cette faible audience couplée à une réception plutôt désastreuse de Honey Don't à Cannes qui vaut au film de ne pas être présent alors ni en salle, ni sur une plateforme, mais dans l'anonymat de la VOD ? Nous ne serons jamais compte tenu des liens inexistants que nous avons avec le distributeur Universal. On pourrait dire qu'Honey Don't est dans la même veine que Drive Away Dolls dans son aspiration à la comédie, mais on quitte l'Ouest américain pour l'aridité du Sud. Nous suivons une détective privée sexy, donc Margaret Qualley, qui se pose des questions sur la mort d'une cliente dont elle a manqué le premier rendez-vous. En raison de sa mort, à la cliente, évidemment.
Tu veux un verre ? Il est midi quelque part.
Non, ça ira. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Mia Novotny ? Ah.
Ben, j'étais pas très content quand elle s'est pas pointée pour bosser mardi, mais ensuite j'ai appris qu'elle était morte. C'est une bonne excuse, et là c'est moi qui passe pour un imbécile. Le plus gros des couillons, furax contre une pauvre morte.
Les gens trouvent toujours le moyen de te faire sentir coupable.
Ouais, les morts, c'est les pires. T'es sûr que tu veux rien ?
Si, mais je peux pas, là. Elle travaillait ici depuis longtemps ?
Non, vraiment pas très longtemps, une semaine. Elle te doit du fric ?
Non, je la connais même pas. Elle m'a appelée pour me dire qu'elle avait peur et que les flics pouvaient pas l'aider. On était censés se retrouver juste après son service.
Ouais, ben, c'est trop tard maintenant.
Ouais, je me sens minable. Je lui avais promis que je l'aiderais.
T'aurais pas pu régler son vrai problème ? Prendre les virages un peu trop vite ? Quoi ? Les flics ont dit que c'était un accident ?
Je sais pas quoi te dire. Elle venait de Lamante. C'est tout ce que je sais.
Tu couchais avec elle ?
Moi ? Non. Un peu trop avenante à mon goût. Les gens optimistes, ça m'angoisse. Elle arrêtait pas de sourire.
Mais elle avait un joli cul.
Ouais. Je te l'accorde.
L'ouverture ne laisse planer aucun doute sur l'accident qui entame le film. Une femme, encore une et toujours ultra sexy, vient sur les lieux du drame et chipe une bague au doigt de la victime. Filant sur son scooter, elle n'oublie pas de faire une pause dans une rivière pour se rafraîchir, laissant entrevoir ses formes. Ethan Coen emprunte là une sorte de clin d'œil à la sexploitation des années 70 et ça tombe bien parce qu'entre le scooter ambiance Vespa et la vieille caisse décapotable de la détective privée, on n'a pas l'impression d'être vraiment dans les années 2026. Un seul personnage de tout le film va brandir son portable. L'une des marques de Onedont est de nous faire baigner dans une ambiance de film d'époque, un polar noir, un pulp, avec un scénario qui tient vraiment en une ligne pour dévoiler des personnages qui courent tous plus ou moins à leur perte. Une bonne partie d'entre eux dévoile leur désir. Il y a le flic qui veut donc son rencard avec la détective privée, qui lui répond toujours bien qu'elle préfère les femmes. Il y a la détective privée qui se met en quête de satisfaire son désir sexuel. Ce sera avec une femme flic qui lui passe les menottes pendant l'acte. Il y a aussi un prêtre d'une église peu orthodoxe, incarné par Chris Evans. Cet homme s'apparente davantage à un gourou au désir sexuel incontrôlable qu'à un pasteur dont on se nourrit des paroles pour une bonne conduite.
Vous êtes fascinante.
Et encore, vous n'avez pas vu la devinette tatouée sur mon cul. Votre vie sexuelle n'interfère pas avec votre vocation?
Et la vôtre?
Non. Je ne mélange jamais le sexe et le travail.
Sauf que mon travail est spirituel, ce qui implique d'honorer toute la personne.
Ça implique aussi de déshabiller toute la personne? J'ai vu la garde-robe des femmes et elle est très différente de celle des hommes.
La garde-robe d'une femme est toujours différente de celle d'un homme. Je pensais que vous vouliez parler de Mia. Je l'aimais bien. Une fille magnifique. J'aime bien les gens. Contrairement à vous. J'aide les gens, mademoiselle O'Donoghue. Je vois une faille et je la comble.
Vous voyez une faille et vous l'exploitez?
Vous n'en savez rien. Vous aussi, vous avez une faille. Et ça vous pousse à me juger. Je sais que vous êtes en train de me juger, mais ce n'est pas grave. Je vous pardonne. C'est votre façon de me repousser. Je peux vous aider à surmonter ça. Vous aider à vous ouvrir aux autres. Que diriez-vous de lâcher prise et de voir ce qui se passe? Vous n'avez rien d'autre à perdre que vos peurs.
Merci. Mais je vais m'en tenir à mon God. Il m'aide à m'ouvrir et il n'est pas rattaché à un blaireau.
Voilà, un petit aperçu des dialogues. L'enquête initiale de cette mort accidentelle qui n'en est pas une va se transformer en une enquête plus large sur les agissements de cette église loin d'être bienveillante. Les morts vont s'enchaîner, ce qui va donner l'occasion à Ethan Coen d'exploiter une veine burlesque, sans doute les meilleures scènes du film. La violence et le terreau du rire n'épargnant aucun personnage. La morale a complètement foutu le camp. L'autre dimension assumée d'Onedont est le discours lesbien. Les scènes de sexe sans être tout à fait explicites sont sans ambiguïté. Il ne s'agit pas d'un film hétéronormé, le seul hétéro, le prêtre, abuse de son pouvoir. Il y a donc là une exploration queer avec des femmes qui s'émancipent sans les hommes et notre détective privé qui ne se lasse pas de les remettre à leur place. L'enquête n'est pas tout à fait limpide pour ceux qui pensent regarder un polar précis construit sur le suspense. Ils vont être déçus. Avec sa compagne au montage et scénario, Ethan Coen a d'autres vues en tête. Il cherche à détourner les codes. Formellement, il y a du Coen dans ce film avec des plans variés, une construction méticuleuse du plan large au gros plan. Et ça peut être un fessier ou une poche. Et aussi des travelling déçus. Par ce film, certains se demandent bien ce qu'a voulu nous montrer l'un des frères Coen. Il ne pourrait y avoir qu'un exercice de style, que je trouve alors pour ma part réussi, empruntant à la veine queer. Si le film est sans doute oubliable, il n'est pas dénué de plaisir, un peu comme les Tarantino et Rodriguez pour leur Greenhouse. On s'en passerait aisément, mais c'est bien fait. Vous avez vu tous les deux ce film, on peut peut-être en parler très rapidement. Alors toi, Sophia?
Je me souviens surtout de la ferveur avec laquelle les spectateurs et spectatrices ont accueilli le film avant même de le visionner. Donc voilà, on s'attendait tous à passer un bon moment de divertissement sans que ça ne nous marque vraiment éternellement les uns les autres.
Oui, mais il y avait une ferveur au début de la projection, mais après, c'est un peu retombé.
Exactement.
Je trouve que les Canois n'ont pas forcément apprécié. Et toi, Guillaume?
Moi, je suis assez déçu parce que j'avais assez bien aimé le très décrié Drive Away Dolls, déjà écrit aussi par Tricia Cook, enfin co-écrit par Tricia Cook. Et je pense que là, on est à un niveau quand même un petit peu en dessous et qu'il y a une inspiration qui s'écroule un peu. Tu parlais d'un côté un petit peu Grindhouse. Moi, je trouve que l'année dernière, il y en a un qui est bien meilleur, qui est sorti un peu dans cette vibe. Je l'avais chroniqué d'ailleurs, c'était Last Stop to Yuma County. Pas facile à dire, qui réussissait un peu plus à ressortir cette ambiance années 90. Là, on voit des petites bribes d'Arizona Junior, mais on est quand même loin de ce que faisait le duo de frères quand ils étaient ensemble, quoi.
Ouais, mais là, c'est plutôt années 70, quand même, je trouve.
Oui,
les citations. Ouais. Ce Onedont du demi-Cohen, Ethan, est en VOD seulement.
Terminé pour aujourd'hui.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Ça ne servirait à rien de le nier.
On se retrouve la semaine prochaine. Et toi, Guillaume, tu auras deux films.
Oui, je vous parlais de Vivaldi et moi et de La captive du désert de Raymond Depardon.
Et moi, je vous parlerai d'une comédie, C'est quoi l'amour de Fabien Gorjard, que j'ai pu rencontrer. À la semaine prochaine.